Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz.
Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes le vendredi 2 février 2007. Oui. Vous êtes dans l'émission Mode d'emploi, il est 20h35. Voilà, Mode d'emploi, c'est l'émission d'AC 1920. AC, c'est Agir ensemble contre le chômage. D'ailleurs, j'en profite puisque je suis là depuis, j'étais pas là ce mois-ci. Je vous souhaite donc une bonne année, bien sûr, à tous et à toutes.
Bonne année, Gilles.
Merci.
Bonne année, Gilles.
Voilà.
Bonne
donc,
année à toi, Gilles.
On va commencer cette année nouvelle avec des chiffres du chômage qui sont bien sûr, comme d'habitude, catastrophiques, n'est-ce pas? Ensuite, nous parlerons donc de la réaction de la presse par rapport à ces chiffres. Éventuellement, on parlera du programme de Sarkozy, qui est un programme fort intéressant.
Éventuellement.
Éventuellement.
Oui, parce qu'il a éventuellement un chômage.
Ouais, éventuellement intéressant. Également une enquête de Marianne sur le vote Le Pen par la classe ouvrière. Et puis des petites brèves dans le cadre de la fin d'émission. Voilà. Donc on va commencer aujourd'hui donc par le collectif ACDC. Donc c'est Autres chiffres du chômage, qui a tenu une conférence de presse la semaine dernière sur les vrais chiffres du chômage devant un parterre de journalistes. Il y aurait en fait 250 000 sorties des ACDIC et des NPE pour la catégorie 1 et 350 000 pour toutes catégories confondues. Alors selon les chiffres de la CDC, c'est 2% seulement de ce nombre-là qui aurait retrouvé un travail ou un emploi, un emploi ou une formation. Les autres en fait seront des radiés ou par des radiés administratifs ou des radiés par sanction. Voilà. Donc Ludo, tu peux m'en parler un peu plus?
Un peu plus.
Un peu plus.
Oui, comme tu l'as dit, alors ACDC, c'est au départ un collectif qui s'est créé sous l'initiative des chercheurs et des associations de chômeurs, donc des chercheurs du CNRS, qui sont spécialisés de la question et qui mettent en doute les statistiques officielles qui émanent du ministère du Travail. Alors, juste, si vous avez suivi un peu l'actualité, sachez que l'enquête de l'INSEE, l'enquête annuelle de l'INSEE qui corrobore les chiffres du ministère du Travail, a été reportée de 6 mois, soit juste après les élections présidentielles, et que c'est un fait tout à fait inédit et sans précédent, d'après le directeur de l'INEDIC lui-même. Or, on estime, les chiffres non officieux sur cette enquête, estiment qu'il y a à peu près 1% d'écart entre le chiffre de par le ministère du Travail, qui s'approche à peu près de 8,2%, et le chiffre que va donner l'INSEE, donc 1% en défaveur du ministère du Travail, c'est-à-dire 9%. Et que ce serait pour cette raison qu'ils auraient été repoussés, mais nous laisserons l'auditeur libre de son interprétation. Alors le collectif ACDC s'est créé effectivement en raison de l'approche de l'élection présidentielle pour informer régulièrement, chaque mois, les citoyens sur ce qu'ils estiment être les vrais chiffres du chômage, et particulièrement juste après l'apparition des chiffres officiels. Alors, je tiens ici à faire un correctif, hein, pour les auditeurs qui éventuellement ne comprendraient pas pourquoi il y aurait des vrais chiffres et des faux chiffres. Il n'y a pas des vrais chiffres et des faux chiffres. Il y a un chiffre qui est donné régulièrement à la télévision, entre autres, hein, qui fait la une des médias, et qui est la baisse du chômage, effectivement, mais ce qu'on appelle les sorties d'inscription de la NPE. C'est le seul indicateur qu'on a. Il y a des gens qui ne s'inscrivent plus à NPE à un moment donné. Il y a des gens qui y entrent et on comptabilise, on fait la balance entre les deux et on comptabilise combien de gens ne sont plus dans le
chiffre.
Ce que met en doute le collectif ACDC, c'est simplement les motifs de sortie du chômage.
C'est ça. Ouais.
Voilà. Et les motifs, ils sont compliqués à savoir puisque finalement, il y a à ce jour une seule enquête de la NPE, qui est une enquête effectivement qui elle aussi est mensuelle, mais qui est une enquête qui porte sur un panel du nombre de sorties. C'est ce qu'on appelle l'enquête de sortie et qui porte sur les raisons et qui donne d'après ça une estimation. Donc le collectif ACDC effectivement a fait ses calculs et comme tu l'as dit tout à l'heure Gilles, on estime entre exactement fin 2005 et fin 2006 une baisse du chômage de 350 000 personnes pour toutes les catégories. Donc les catégories de la NPE 1 à 7 est comptabilisée dans les statistiques officielles la catégorie 1, c'est-à-dire les gens qui travaillent moins de 78 heures par mois, ce qui correspond à peu près à un mi-temps, et donc de 250 000 pour la catégorie 1, une baisse de 250 000. Ce que conteste ACDC, tout simplement, c'est que, eh bien, dans la baisse dans le nombre de sorties, comme tu l'as rappelé, de plus en plus, il y a une explosion du nombre de sorties, c'est incontestable. Sauf que on estime qu'à peu près 2%, 2% hein, oui, d'après l'enquête de sortie. Et ce qui est corroboré, il faut le savoir, par les chiffres de l'INSEE qui indiquent que le nombre d'emplois créés est tout à fait est très minime. Voilà, et que énormément d'emplois de créés sont des petits boulots. Donc estime qu'effectivement il y a à peu près 2% de gens qui sortent pour retrouver un emploi durable. Le reste, c'est des gens qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent. Et par contre, on assiste à une explosion de la sortie, des sorties pour radiation administrative. Et radiation administrative, c'est-à-dire la sanction pour non-présentation à une
un entretien. D'accord.
Entre autres.
Et on peut chiffrer ce nombre-là ou c'est alors, si ça fait 98, s'il y a 2% qui sortent pour des raisons de formation ou d'emploi, il reste 98% de gens qui seraient sanctionnés,
alors,
en fait.
On a à peu c'est près beaucoup, donc, hein. Les chiffres mensuels. Donc, tout ce qu'on a dit, là, les 2%, c'est 2%, c'est des chiffres mensuels. Donc, on fait le différentiel entre le non mensuel moyen en 2003-2004 et le non mensuel moyen 2005-2006. Je rappelle que c'est des sources, enquêtes sortantes de l'ANPE elle-même, hein. C'est pas des chiffres qui sortent de n'importe où. Donc, on a effectivement total entrée en emploi formation. Donc, une augmentation de 2% par rapport à la période précédente, hein. Et en ce qui concerne le reste, eh ben c'est pas compliqué, on fait à peu près, tu fais le reste, le calcul, tu obtiens grosso modo une augmentation de 30% pour non renouvellement motivé. C'est-à-dire que la personne dit pourquoi elle a arrêté, et en réalité c'est parce que quand elle dit motivée, ça veut dire que elle a eu des sanctions et elle a décidé de ne pas se réinscrire au chômage, clairement. Arrêt pour recherche de maladie, donc moins 6%, donc ça c'est la réforme de l'assurance maladie, et pour radiation administrative plus 39%, donc là on voit le contrôle, les effets du contrôle mensuel. Et autre motif non précisé, 28%. Voilà, plus d'augmentation. Ce qui fait que, alors en chiffres, hein, ça donne à peu près 100 total d'entrée en emploi ou en formation par mois. On a à peu près 287 000 personnes qui reprennent un emploi, donc qui sortent pour ces raisons. Pour, par exemple, pour donner une idée, les radiations, à peu près 9 400 personnes, plus non renouvellement motivé 17 000 personnes, quoi. D'accord. Grosso modo.
Voilà, c'est quand même des chiffres assez impressionnants. Ces chiffres-là, les ACDIC, ils les ont aussi. Donc pourquoi eux, ils les donnent pas dans les chiffres officiels?
Mais non.
Parce qu'ils le cachent.
Tout est dans les chiffres officiels.
Tout est dans les chiffres officiels. D'accord.
Simplement, il faut se donner la peine d'éplucher les chiffres officiels.
D'accord.
Alors non, derrière la question.
Non, mais tu comprends la question que je voulais poser.
Oui, bien entendu. Voilà. Ouais. Mais le vrai truc, c'est que bon, on a un chiffre qui est le chiffre du nombre de sorties. Et pendant le chiffre du nombre de sorties, on sait pas tout à fait à quoi il correspond. En résumé, c'est-à-dire qu'on joue là-dessus. T'as une enquête, un panel, mais c'est pas la vérité absolue. Donc, or, pourquoi il y a une augmentation du nombre de sorties? C'est que, dans le cadre du plan de la cohésion pour l'emploi, on a mis en place un contrôle mensuel. Et ce contrôle mensuel est favorise très, c'est une forme de harcèlement vis-à-vis des chômeurs, et favorise complètement les sorties par radiation pure ou par ce que le ACDC appelle les chômeurs dégoûtés. C'est-à-dire les chômeurs dégoûtés, c'est des gens qui n'ont plus de raison d'être inscrits au chômage parce qu'ils sont plus indemnisés et qui décident de mettre fin à leur inscription à l'ANPE parce qu'ils estiment que ça sert à rien. J'ajoute, pour vraiment essayer de préciser les choses, c'est que l'INSEE, elle, a fait ses comptes, c'est les chiffres de l'INSEE, et que l'INSEE a fait un calcul très très simple, qui est tout à fait éclairant, c'est que l'INSEE a calculé l'augmentation de la population active. Alors l'augmentation de la population active, on l'estime à peu près aujourd'hui à 180 000 personnes annuellement qui sont rentrées en 2006. Hein. On estime les créations d'emplois à 240 000.
Personnes. 240 000, d'accord.
Voilà. Or, ça, tout simplement, hein, 180 000, 240 000 moins 180 000, Ça fait pas 250 000 baisses.
Ça, c'est clair.
Voilà.
Ouais. 60, je crois. Hein.
C'est ça.
60 000.
Mais apparemment, il faut croire que les calculs du gouvernement, eux, on trouve pas les mêmes chiffres, puisque...
Est-ce que c'est vrai, c'est toujours valable, que le fait de d'avoir plus de 55 ans ne t'incombe pas l'obligation de t'inscrire à la NPE?
Je crois que c'est 57 ans, et c'est pas une obligation, c'est que tu obtiens une dispense du travail. Il faut ajouter à la catégorie 1 les RMistes qui ne sont pas inscrits. C'est pas tout à fait 1 million, parce qu'il y a quand même des RMistes inscrits, mais ça fait un nombre considérable. Plus, effectivement, je crois 400 000 dispensés de recherche d'emploi, quelque chose comme ça.
Plus tous ceux qui sont en formation dite.
Je vais te surprendre. Alors, tu as raison sur un point, c'est-à-dire que c'est des formations. Il y a des formations bidons, c'est-à-dire de recherche, de CV, on va dire, ou de prise d'autonomie, qui sont. Je parle de formations bidons, c'est-à-dire des formations qui sont confiées à des prestataires de services extérieurs et qui durent 3 mois ou 6 mois et qui effectivement te mettent en formation d'office. Mais surtout, il y a une coupe drastique des formations rémunérées, qualifiantes rémunérées, importantes. C'est-à-dire qu'on ne finance plus les formations professionnalisantes, on finance uniquement les métiers dits en tension. Et les métiers en tension, ça correspond à un petit sondage autour au bâtiment,
restauration, les deux trucs qu'on nous propose
Et qui demandent très peu de formation, pas pour le bâtiment, je suppose, mais enfin pour être caissière, à mon avis, il faudra.
Taper sur une machine.
C'est ça, faut apprendre à taper vite, en plus.
Non, mais Ludo, ne te détrompe-toi, il faut de la formation pour être dans la restauration quand même.
À la restauration, la restauration, bien sûr.
Et le bâtiment,
Il y a un truc qui est pas mal non plus, c'est ce qu'ils proposent souvent, c'est les bilans de compétences pour permettre aux gens de changer de métier, qui sont également donnés à des prestataires extérieurs et qui ressemblent souvent, pas toujours, mais souvent à un peu n'importe quoi, simplement pour permettre aux gens de ne pas errer dans les rues et être en formation, quoi. Donc c'est un peu bizarre, quoi, mais c'est, voilà.
Alors je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que dans la note d'ACDC, il y a quand même une rubrique qui s'appelle fiche 3.
Ah,
fiche 3. Ah oui,
c'est alors pas une fiche 3 des RG, hein, c'est pas les RG qui fait ça, hein. c'est bien.
C'est moi les RG ici.
Non mais c'est bien si les RG se penchaient sur la question, peut-être qu'on aurait des choses assez fiables, hein. Donc qui s'intitule la fiche chômeur, et on vous donnera les références du document bien sûr à la fin, hein, parce que assez la mise en ligne, bien évidemment. Et qui dit qui dit ce qu'on dit, hein, pour cette antenne régulièrement. La nouvelle chasse, ça s'appelle dans un paragraphe, la nouvelle chasse aux mauvais pauvres. Donc on dit simplement que, contrairement à l'idée reçue, les RMistes ne sont pas incités à rester au RMI parce qu'ils auraient des allocations trop répandues, trop élevées. C'est qu'ils sont incités à rester au RMI tout simplement parce que les boulots qu'on leur propose sont des boulots à temps partiel, en majorité. Et que financièrement, évidemment, ils y perdent. Et d'après les enquêtes qui sont faites auprès de ces gens, les 3/4 des gens se déclarent, sont contents d'avoir travaillé, et un mieux-être. Mais financièrement, ils y perdent et ils y retournent pas. Et...
Christophe, tu... Alors, sur ce point-là, je confirme, puisque je le vis. Et une deuxième chose qui est importante parmi les 200, la différence assez importante parmi tous les sortants, c'est qu'on oublie que Monsieur Borloo, dans le cadre de son plan de cohésion sociale, a essayé de également magouiller les chiffres pour une raison très simple, en proposant dans le cadre des contrats d'avenir des contrats de 30 heures. Or, qui dit 30 heures dit qu'on ne fait plus un mi-temps. Donc on n'apparaît plus dans la catégorie 1.
Absolument.
Et il y a près de 50 000 contrats d'avenir qui ont été signés dans ce cadre-là, je crois, au premier semestre 2006. Et voilà, quoi. Donc,
c'est un CNE amélioré, en fait, c'est ça, non, contrat d'avenir?
Oui.
D'accord. Non, c'est un espèce de CDD qui dure...
Dis-moi si est-ce que mes chiffres sont bons. Est-ce que, par exemple, les personnes qui pourraient avoir un emploi dans une autre région de France ne sont pas mobiles et qu'il y aurait des centaines de milliers d'emplois, un vivier d'emplois qui n'est pas pris en charge?
Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée. Il y a des bassins d'emplois qui sont sinistrés. Je veux dire, pour prendre la Lorraine ou... on va pas se faire des amis si on nous écoute en Lorraine, mais ou dans le Nord.
Mais ils ont pas internet en Lorraine.
Ok, ça va arranger les choses.
Non, mais ils ont l'Alsace peut-être, non?
On va pas tout avoir.
Et donc effectivement, pour ces gens-là, on leur dit venez sur Paris. Alors après, tu vas dire à des chômeurs sur Paris, je sais pas, vous avez qu'à aller en Lozère peut-être pour trouver du boulot. Ouais. Bon, faut pas se moquer du monde. Non, le vrai problème de ce genre de situation, c'est le coût du la durée et le coût du transport quand il s'agit d'aller travailler à Pétauchnock. À Pétauchnock, j'entends en très grand, en lointaine banlieue, quoi. Et on a certains cas où effectivement les conditions de travail sont tellement difficiles qu'ils coûtent ça coûte plus cher aux gens d'aller travailler que effectivement de rester chez soi.
Merci Ludo pour ces éclaircissements. On va passer une petite chanson en reprendra ensuite l'émission. Merci. Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission d'AC, AC1920, AC, c'est l'agence en contrôle chômage. Je suis donc avec toute l'équipe d'AC et bien sûr de Mode d'emploi, avec Mario à la technique. On va écouter maintenant un auditeur, merci.
Bonsoir.
Salut Joël.
Bonsoir à tous.
On te reconnaît.
Vous allez bien?
Oui, merci.
Salut Joël.
Bonne année à toi, si on te l'a pas dit. Bonsoir.
Oui, je sais pas, mais bonne année aussi. Et puis, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui commence et qui va être
très mouvementée.
J'ai l'impression. On parlait, la chanson précédente parlait d'hommes pressés. Je crois que cette semaine, il y en a un qui a été très pressé de se débarrasser du chômage. Ça a été Monsieur de Villepin. Qui a fait quand même de plus en plus d'ailleurs des déclarations consternantes.
Oui, c'est exact.
Par rapport à ces fameux chiffres du chômage quand même. Il y a eu des choses quand même qui... Je sais pas s'il a réfléchi dans ce qu'il a dit, mais il a quand même dit il faut faire attention avec ce qui est dit sur les chiffres du chômage, car ça fait le jeu des extrêmes. on marche quand même sur la tête parce que est-ce que ce n'est pas eux qui font le chiffre des extrêmes en cachant effectivement la vérité? Moi je crois que c'est plutôt le contraire. Oui, c'est eux qui font le jeu des extrêmes.
Pour tout dire, il a même dit exactement, parce que la déclaration a été largement relayée, il a dit exactement prenons donc garde à ces polémiques stériles et systématiques, elles nous détournent des vrais débats. Bon, on ne sait pas ce que c'est les vrais débats, hein. Elles font le jeu des extrêmes, effectivement, elles entretiennent un climat de doute et de méfiance qui nous affaiblit. Et il a déclaré également que les journalistes feraient mieux de lire la presse internationale plutôt que de... On a un premier ministre, on a des gens quand même qui s'intéressent un petit peu de près aux chiffres de sa propre administration et pas qui dit là il y a un petit problème, et il rétorque non, à l'étranger on sait bien mieux ce qui se passe en France d'ailleurs, et on a toutes les informations pour, c'est bien
à cette question. Est-ce que vous avez des retours? Ça serait intéressant justement à un moment d'inviter peut-être des gens de la NPE, savoir si il y a vraiment des retours par rapport à ça.
Alors je précise, j'ai oublié de le préciser, mais d'abord on est en relation avec les syndicats de la NPE, et ensuite donc on travaille quand même pas mal avec eux, et que le collectif ACDC, il y a parmi eux des syndicats de la NPE. Et quant au retour, ils sont clairs. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin, pour tout te dire, d'aller de demander l'avis des syndicats. Il suffit de se pointer à la NPE. Si tu te pointes à la NPE, tu te fais convoquer à n'importe quel truc bidon de rénovation de CV. Je dis ça parce que ça m'est arrivé récemment. Et comme par hasard, la NPE me convoquait à chaque fois que je travaillais, tu vois. Donc, c'était un peu bizarre. Et quand j'y suis allé, on m'a proposé un atelier bidon. Et au bout de 10 minutes d'atelier vraiment bidon, où tous les gens disent j'ai l'impression de venir pour rien, Nana finit par nous déclarer qu'elle est complètement démotivés, que le contrôle mensuel ça tue, que enfin ça les tue eux, c'est un surcroît de travail administratif, c'est
effectivement un surcroît de travail qui est assez considérable, quoi.
C'est clair, mais ils ont l'impression complète de leur inutilité. Mais il faut gratter, parce que quand tu rentres, t'as d'abord des petits jeunes qui sont embauchés et qui te donnent une allure super commerciale. Et Même pas la peine de demander l'avis des syndicats, parce que de leur côté, tu sais qu'ils sont dégoûtés. Quoi.
Voilà, ouais.
Parce que quand même, on, à chaque mois, effectivement, c'est toujours la même rengaine, et tout le monde est content. Quand je dis tout le monde est content, je me comprends, c'est-à-dire le gouvernement est très content, effectivement, à chaque fois, de sortir des chiffres tous les mois, effectivement, positifs, pour eux, hein, bien sûr. On a l'impression, mais bon, on sait aussi que les médias, ben, ils s'intéressent à ce qu'ils veulent. Et là, effectivement, mais... Là justement, je pense qu'il a perdu, il a perdu ses nerfs, si je puis dire, il a perdu son sang-froid.
Mais il perd souvent, hein, de toute façon.
Et je pense que c'est un signe quand même, c'est un signe de nervosité. Et ils savent très bien qu'on pourra, je pense qu'ils savent, ils se doutent très bien qu'on pourra pas cacher ça très très longtemps,
oui,
à l'ensemble de la population. Même si la plupart des gens se doutent bien effectivement qu'on est à plus de 3 millions de chômeurs. Mais je crois que la grande masse de la population peut-être peut encore penser que effectivement, ben, on jugule le chômage, oui, avec des mesures qui sont prises et avec des effets d'annonce et autres. Mais je crois que là, ça a été un signe, je pense aussi, de mauvaise foi bien sûr, mais je pense que ça a été un signe de perte de sang-froid de monsieur de Villepin, quoi. Mm-hmm. Et je pense que je pense qu'il faut continuer à enfoncer le clou, quoi. Faut continuer à enfoncer le clou, parce que on peut pas continuer à mentir et hontement comme ça.
Impunément,
quoi.
Oui, je suis d'accord avec toi, John. Excuse-moi, je vais t'interrompre parce que notre émission est chargée aujourd'hui. Oui. Je te remercie d'avoir appelé en tout cas. Hein.
Voilà. Mais bonne soirée à vous.
Merci à toi aussi.
Ciao,
bonsoir.
Bien, on va reprendre cette émission. On l'avait, finalement, on l'a pas arrêtée, mais on la continue sur donc les chiffres du chômage et puis surtout la réaction de la presse.
Oui, alors je voulais juste finir pour préciser quand même qu'on a un mouvement de société qui est, comme le disait Joël. Juste d'ailleurs sur ce que disait Joël, moi je pense que simplement c'est caché avant l'élection présidentielle. Une fois que t'as l'élection présidentielle qui est passée, on se permettra tout et n'importe quoi. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a un vrai mouvement de société qui consiste à simplement à considérer qu'il y a des faux chômeurs. On le dit assez. Alors il faut quand même rappeler qu'on est dans un paradoxe stupéfiant. On a eu quand même une explosion du nombre de... Bon, une explosion du nombre de SDF. Hein, oui, une explosion de la pauvreté. Des chiffres de chômage extrêmement douteux. Et en tout cas, pour le moins, un chômage de masse. Et on a des gens qui nous disent, mais pas du tout, pas du tout. S'il y a des chômeurs, c'est qu'il y a quand même beaucoup de chômeurs. Et donc, mais on est là, jamais... De toute l'histoire, hein, presque depuis la naissance de l'ère industrielle ou en tout cas des années récentes, depuis les années 50, on a eu cette espèce de paradoxe qui consiste, comme le disait un des sociologues présents à ACDC, à faire une chasse aux mauvais pauvres qui rappelle la chasse aux mendiants oui, sous l'Ancien Régime. Et c'est exactement ça. Et en guise de réponse à ces gens qui disent ça, voilà ce qu'écrivait l'OCDE dans son rapport régulier sur les réformes à mener, évidemment. Les réformes structurelles qui commencent par générer des coûts avant de produire des avantages peuvent se heurter à une opposition politique moindre si le poids du changement politique est supporté dans un premier temps par les chômeurs. En effet, ces derniers sont moins susceptibles que les employeurs ou les salariés en place de constituer une majorité politique capable de bloquer la réforme dans la mesure où ils sont moins nombreux et ils sont souvent moins organisés.
Très bien. Alors, dis-moi, je ne sais pas si vous avez regardé la presse, écouté la télé, suivi la presse par rapport au chiffre du chômage, vous avez suivi un petit peu comment réagit la presse.
Effectivement, moi, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait, et je dirais que ce qui est intéressant, c'est que, en première impression, c'est là où tu vois vraiment le match Sarko-Sego. C'est-à-dire que c'est révélateur des soutiens des uns et des autres. C'est-à-dire que tu as eu un an. Il faut savoir que dans un quotidien, je le rappelle à nos éditeurs, 90% des gens lisent les 8 premières pages. Et le reste, c'est pas lu. Or, dans Le Parisien, qui soutient ouvertement Nicolas Sarkozy, par exemple, il y a eu un encart à la 16e page.
D'accord.
D'environ un quart de page. C'est un entrefilet, en fait. Dans l'Humanité, il y a eu à la septième ou huitième page, une trois quarts de page, quoi. Tu vois, un verso, trois quarts de page, donc assez conséquent.
Dans l'Humanité,
hein. Dans Libé, il y a eu une demi-page, donc on voit vraiment le match Sarko-Sego dans cette histoire.
Et puis attends, tu parles même pas de l'édito du Figaro, et
oui, voilà.
ça valait le déplacement, franchement.
Voilà. Et non, mais c'est intéressant. C'est là, on voit d'un côté des gens qui ne veulent pas pointer des réalités sociologiques et fait par des statistiques et des chercheurs, donc des gens qui sont impartiaux et qui sont dans une logique scientifique, quoi. Et de l'autre,
une manipulation.
Un chiffre.
Bah alors n'allons pas voter si on sait déjà que si Sarkozy go au deuxième tour, on n'a qu'à tous attendre le 1er mai
The winner is this fucking
Gonzesse, this fucking.
Merci.
Ou un borgne.
Merci Arnaud pour ton excellent anglais. Alors, alors on va passer maintenant, parce que tu en parlais à l'instant du combat Sarko-Sego. Vous avez suivi un petit peu le programme de Sarkozy. Qu'en est-il exactement? Va-t-il être un très très bon président de la République ou alors un exécrable président de la République?
Alors, en ce qui concerne le programme de Nicolas Sarkozy, il s'agit indiscutablement d'une dignité de rente. Et d'empiéter au maximum sur les possibilités de garantie sociale pour chacun. Donc la première idée, c'est autoriser d'abord la réforme des régimes spéciaux de retraite, hein, sous prétexte que ces salauds de fonctionnaires gagnent trop d'argent. Je rappelle que les régimes spéciaux, ça fait que par exemple, ta retraite quand t'es fonctionnaire est calculée sur un taux de 75% de ton salaire brut. Oui. Et des 10 dernières années. Donc ça, évidemment, ça coûte un peu plus d'argent que les autres. Et M. Sarkozy veut absolument livrer en pâture cette idée. Donc il y a aussi une autre idée qui est que on n'y ait pas la possibilité forcément de pouvoir avoir une CMU universelle. Voilà quoi. Donc il y en a plein d'autres. Donc il y a aussi l'idée d'une rente, c'est-à-dire d'avantages fiscaux sur les droits de succession pour les gens les plus aisés. Et alors la chose la plus scandaleuse dans cette histoire, c'est la fameuse réforme de l'USF.
Oui, à 50%, c'est ça.
Ce sera un bouclier fiscal taxé à un maximum de 50%.
Donc il est actuellement de 62, c'est ça?
Voilà, 60%, pardon, oui. Et avec un ISF qui serait quasiment édulcoré pour les premières tranches de l'impôt sur les grandes fortunes.
D'accord.
Donc on arrive à un mécanisme, si tu veux, où les gens modestes ont rien.
On attaque les acquis sociaux d'un côté, en même temps
voilà.
On donne de l'argent.
C'est du bouchisme, quoi. C'est du bouchisme.
Pour moi, en fait, Sarkozy, ce sera le Thatcher des années 2000, avec une petite dose de berlusconisme, parce que ça fait mieux. Au-delà, hein, à travers le discours, le travail, il faut réhabiliter le travail crée le travail. Alors si quelqu'un économiste peut m'expliquer cette phrase,
j'aimerais bien.
Non, c'est-à-dire qu'on peut travailler plus si on a envie de travailler plus, c'est ça qu'il dit plus ou moins.
Il a dit dans son interview du Monde, ouais. Au Monde accordé exactement le 23 janvier 2007 et qui doit être disponible sur Internet, il a dit le chômage, la solution au chômage, c'est le travail, car le travail crée de l'emploi. Le travail plus travailler crée plus d'emplois. Bon, je sais pas, moi j'avais cru comprendre que les économistes dits néolibéraux, c'est-à-dire Friedman, von Hayek, tout ça, avaient dit que l'économie, il était très important que l'économie tourne avec un chômage de masse important. Il me semblait que c'était
ça a été dit dans les théories de von Hayek, absolument.
Complètement. Bon, c'est la période qu'on vit. Et puis surtout, ce qui est un peu étonnant, c'est que derrière ce discours populiste, on n'aime pas ce mot, mais disons ce discours facile, Monsieur Sarkozy propose quand même de réduire complètement les prélèvements obligatoires. Et il dit qu'il touchera pas à l'assurance maladie. Donc, c'est les prélèvements obligatoires, c'est ce qu'il y a sur votre feuille de paye et qui sert à payer vos indemnités de chômage le jour où vous serez viré, et votre RMI. Alors c'est pas sur les prélèvements obligatoires puisque c'est l'État, mais enfin principalement c'est ça, quoi. C'est-à-dire que c'est les chômeurs qui vont se ramasser à l'anglaise.
Est-ce qu'ils s'attaquent aux impôts indirects comme la TVA, tout ça aussi?
Ça par contre il va l'augmenter, parce qu'il faut bien compenser.
C'est bien, ça,
donc c'est beau, comme je veux dire, comme équilibre.
Un impôt juste en plus. Ah oui, c'est un impôt très juste. Ouais.
Avec les mesures dont parlait Christophe de baisse de la fiscalité, parce que c'est quand même des mesures importantes, d'exonération de la transmission de patrimoine, hein. Finalement,
qui est une mesure majeure, parce qu'il faut savoir que démographiquement, un ensemble de chefs d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, vont partir à la retraite. Donc il faut transmettre l'outil de travail. Et il y a des taxes, quoi. Et évidemment, c'est la clientèle de M. Sarkozy.
Excuse-moi, c'est aussi le patrimoine privé, pas seulement l'entreprise, pas seulement. Or, je suis désolé, c'est quand même toutes les mesures qu'il a annoncées. Bon, on en fera la liste peut-être quand on aura un peu plus de temps. Pour finir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, ça favorise le capital. Et c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment la rente, le capital et la rente que Sarkozy va favoriser avec son gouvernement au détriment des chômeurs.
Tu as tout à fait raison de souligner. C'est là où je voulais en venir. Effectivement, s'il offre 50% de prélèvement obligatoire global, comment financer les 10% restants, puisqu'aujourd'hui on a une détaxe sur les hauts revenus de l'ordre de jusqu'à 60% maximum. Donc ça sous-entend derrière qu'il y aura une remise en cause du système de répartition des richesses et de couverture sociale, forcément, du fait des déficits induits. Seulement, comme il est malin et c'est un grand communicant, il n'en parle pas. Et l'objectif des néolibéraux dans cette histoire, c'est de rendre l'assurance primaire maladie au privé, pour qu'on ait une médecine à deux vitesses.
Tout à fait.
Ça, c'est un des... Parce que l'assurance maladie en France, c'est des centaines de milliards d'euros. C'est un énorme, énorme marché. Et les libéraux rêvent de le prendre.
D'accord. Voilà, et ça serait intéressant de dire, quand il dit, parce que bon, moi les chiffres de campagne, je me souviens des chiffres de Jacques Chirac au moment de la baisse des impôts, quand il dit qu'il veut rendre 2000 euros par foyer en baissant les prélèvements obligatoires, j'ai envie de lui dire oui, où il va les trouver.
Où va les trouver,
et
oui,
à qui surtout ça va profiter, parce que c'est pas aux Français.
Dans les poches de Arnaud,
j'ajoute
Bernard
que pour
Arnaud,
que ce soit bien précis, Yvonne, notre documentaliste experte, nous a trouvé un article donc de Libération d'une proposition récente. Simplement, Sarkozy veut s'inspirer du CNE pour son contrat unique, pendant que Royal veut l'abroger. Donc voilà. Donc en fait,
ça, on le savait plus ou moins déjà. Oui, effectivement, faut. Mais c'est bien.
On le savait, mais voilà. C'est sûr. Ouais. En fait, c'est un alignement quand même sur la politique de l'emploi au Royaume-Uni, quoi.
Alors, dernière chose sur Sarkozy, c'est que par rapport au travail et le fait de travailler plus pour gagner plus, éventuellement, donc pour moi, c'est une attaque rangée sur les 35 heures, puisque 35 heures étaient faites pour dégager des heures, pour créer des emplois. Et là, a priori, ce serait une attaque rangée contre 35 heures. Tu voulais réagir par rapport à ça, non ?
Oui, alors c'est une aberration monumentale pour une raison très simple. C'est que je rappelle qu'on a près de 5 millions de personnes. Je te remercie Yvonne parce que je respirais très mal. On a 5 millions de personnes qui sont aujourd'hui dans la précarité en France. Et Monsieur Sarkozy veut que les gens qui ont déjà un poste travaillent plus, donc pour gagner moins d'argent, alors que ceux qui sont précaires auraient bien besoin de l'emploi qu'induit ces heures supplémentaires.
Absolument, tout à fait d'accord.
C'est totalement scandaleux. Et c'est inhumain.
Et il veut des
dérogations. Mais moi, je suis pas d'accord avec les chiffres.
Il veut des dérogations pour pouvoir faire travailler les gens plus. Et on voit bien que dans certains cas, dans la grande distribution, par exemple, et tout simplement pour exploiter les gens.
Très bien. Mais je vous remercie, messieurs. On écoute une petite chanson et puis ensuite, on parlera d'autres choses.
À tout de suite.
Milliards d'euros. 65 milliards d'euros, le hold-up du siècle. 65 milliards d'euros, c'est environ 4% du PIB de la France. 65 milliards d'euros, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. C'est la plus vaste escroquerie de la Ve République. C'est le plus grand braquage de tous les temps. 65 milliards d'euros. La nouvelle est parue dans le Figaro du 24 janvier 2007, dans la page des faits divers. Vous savez, les pages couleur saumon, celles qui sont intitulées économie. La victime du méfait est aujourd'hui dans un état critique. Pour vous, nous l'avons interviewée. Madame la République, comment allez-vous ? Je sais plus trop où j'en suis. J'ai mal au prof, j'ai des occlusions d'hôpital, j'entends plus rien de l'oreille gauche, j'ai une excroissance de l'organe policier. Mais, trêve de plaisanterie, que s'est-il réellement passé ? En réalité, d'après un rapport de l'inspection des finances, des administrations et des affaires sociales et de l'aide publique, l'aide publique que la France verse aux entreprises représente donc 65 milliards d'euros rien que pour l'année 2005. Ce manque à gagner en recettes fiscales représente en gros le déficit budgétaire. Sur cette somme, plus de 24 milliards, soit environ 42%, sont financés par la baisse du coût du travail. Cet état de fait, je le souligne en réalité pour rééquilibrer le débat sur la pertinence des systèmes de répartition et de solidarité dont on parlait précédemment. 65 milliards d'euros, ça m'a estomaqué.
Très bien. Ben.
C'est vrai qu'on a le coup.
On est soufflé là.
On a, ouais.
Merci Mario pour ta chronique.
Je vais en mettre.
Ben 65 milliards, ça va bien dans les poches des chômeurs, hein, finalement quelque part.
Bon, ouais, allez. Ou pour créer des emplois.
Ou pour créer des emplois. Merci Mario. On va continuer cette émission sur une enquête de Marianne qui a enquêté sur le vote ouvrier, hein, le vote de la classe ouvrière. Apparemment, de plus en plus d'ouvriers voteraient à l'extrême droite.
Alors, non, c'est pas vraiment ça. C'est que Marianne, si tu veux, s'est dit, les gens qui disent merde au système, c'est des gens qui votent Le Pen, c'est surtout vote ouvrier, classe populaire. Sauf que Marianne, en se rendant à la fête, Beban Rouge, etc., s'est rendu compte que c'était un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le discours de Jean-Marie Le Pen est en train de rentrer dans toutes les couches et les classes sociales de la société. Notamment parmi les jeunes blancs des classes moyennes qui ont fait de longues études et qui sont de fait déclassés par la paupérisation liée au libéralisme et qui rentrent dans ce concept-là. Alors, je vais te citer quelques témoignages pris au vif du sujet sur les uns et les autres. D'abord, faut savoir que la force de Jean-Marie Le Pen, et c'est ça qui le rend extrêmement dangereux, c'est qu'en 30 ans de politique, voire 30 ans, 40 ans, il n'a jamais changé de discours. Donc, il s'appuie à fond sur ce qu'il appelle la trahison UMPS. Voilà, donc à fond là-dessus.
Ouvrier, PC, et puis, etc.
Et vert.
Bande des quatre.
Par contre, la bande des quatre, voilà. Tandis que, par contre, Marine Le Pen, aujourd'hui, il y a un petit glissement. Elle se veut un peu plus, elle joue la nouveauté, la révolte et le consensus le plus large, capable de séduire de Vannes à Aulnay-sous-Bois en arrondissant les angles. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'au lieu de faire peut-être 20%, c'est peut-être des gens qui seront amenés prochainement en avril à faire 30%. Facile. Pourquoi ? Parce que, comme le rappelle Jean-Yves Camus, qui est chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, le Front National vit dans une schizophrénie permanente, avec un discours qui est prétendument recentré, tout en offrant un stand aux néo-nazis du NPD allemand. Ben lors de leur fête Bleu Blanc Rouge, ils ont invité aussi de Dionné, par exemple, tu vois, et un certain nombre de beurre, parce que c'est leur clientèle. Pourquoi ? Parce qu'ils s'appuient sur une forme de modernité apparente, sachant que traditionnellement, ils sont vraiment d'extrême droite. Hein, voilà, donc ça veut dire que par exemple, ils ont intégré une personne comme Farid Machi, qui est un jeune beurre, qui est au bureau national du Front National et qui il y a 20 ans collait les affiches du Front, il y a 10 ans collait les affiches du Front National dans la cité, se faisait insulter, et qui aujourd'hui il sort de la mosquée d'Aubervilliers, il se fait embrasser, quoi. Parce que il joue sur l'aspect éducatif, ouais, faut revenir aux valeurs, etc. Donc il y a toute une stratégie de communication qui est très intéressante par rapport à ça. Et les mecs, ils jouent, si tu veux, sur la communication environnementale. C'est-à-dire que dans Farid Smachi, il dit, voilà, dans les cités, beaucoup ne supportent pas Sarkozy et on s'apprête à voter massivement pour moi. Voilà. Avant, les seuls rebeux qui choisissaient le FN, c'était des harkis. Alors, et ce mec de 43 ans explique qu'il habite dans une cité HLM de Saint-Denis et qu'aujourd'hui j'ai des collègues qui m'ont avoué qu'ils allaient voter pour Le Pen en 2007, quoi, voilà, parce que ras-le-bol. Donc c'est, en fait, derrière la communication d'adoucir les angles, il y a le besoin, selon l'identité de la nation, de créer une fausse identité pour les gens qui sont complètement déclassés. Et donc de se retrouver de façon un petit peu fraternelle en disant, oui, mais Le Pen, comme il est contre le système, lui, il va pas nous trahir. Et c'est génial. En termes de communication et stratégie, c'est fabuleux. Donc on arrive à une situation, si tu veux, où t'as des gens qui sont bac plus 10, bac plus 5, bac plus 10, hein, qui sont 35 ans, qui vivent le déclassement social qu'un certain nombre d'entre nous vivons et voyons au quotidien, et qui disent, derrière ma dizaine d'années d'études et ma minuscule chambre de bonne, maintenant moi je vote Jean-Marie. Et j'ai pas honte de le dire. Et ils se cachent plus, les mecs. Tu vois, et ça c'est assez intéressant. Et les mecs, leur argumentation, c'est dire, on va me dire que voter Le Pen est irresponsable, mais la façon dont la campagne est menée, est-ce que c'est responsable ? Tiens, retournons les choses. Ah oui, tout va bien. Sauf que derrière ça, comme le rappelle un certain nombre de sociologues, le programme de Jean-Marie Le Pen, c'est le sommet de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire la fin de l'ISF. 20% maximum d'impôts, ce qui est infaisable mécaniquement et économiquement, pour tout. l'absence de la création de nouvelles niches fiscales, etc., etc. Ça veut dire que Jean-Marie Le Pen arrive au pouvoir, il fait que 25% d'impôts, il garde comme quelle mission il garde au niveau de l'État, une mission régalienne, police, justice,
oui bien sûr,
et éventuellement une partie d'éducation
pour les blancs,
pour les blancs, qui donnera donc de l'argent pour le privé. C'est le pire système qu'un américain. Et donc ça veut dire les affaires sociales, c'est fini. Ça veut dire la jeunesse et les sports, c'est fini. La culture, n'en parlons pas, etc. Donc c'est au minimum, au bas mot, 1 million de fonctionnaires qui sont foutus à la porte du jour au lendemain.
Rappelons qu'il s'est converti au néolibéralisme depuis des années déjà, et qu'il allait aussi loin que Madeleine, et que ben, il a fait le bon choix, parce qu'en fait, il est certain de se mettre dans la poche toute la classe dirigeante le jour où il remportera des succès électoraux, disons à des échelons local, régional, voire à la députation et à la présidentielle.
Donc du coup, on a des gens comme Marcel Gauchet, qui est un philosophe, qui était pas vraiment proche de lui, qui dit ah mais oui, mais attendez, pourquoi il y a ça? Parce qu'il y a une colère et il y a une volonté, notamment de la part de jeunes diplômés ou très diplômés, de mettre un énorme coup de latte dans le système et dire merde. Voilà, c'est pour dire merde, c'est clairement pour dire merde. Et puis, et pourquoi ces gens-là disent, ben voilà, moi par exemple, quand je fais des études et que je veux me faire financer une thèse, alors qu'aujourd'hui, parce que j'ai pas trouvé de financement pour ma thèse, je me retrouve au RMI, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'essentiel du recrutement des thésards se fait sur des éléments extrascolaires, politiques et tout. Et qui c'est qu'en profite? Les petits fils à papa, les petits bourgeois qui sont encartés au PS et l'UMP. Voilà, et un gros coup d'un dans le système. Bref, Monsieur Jean-Marie Le Pen, il a de sacrés beaux jours devant lui, et je tenais à le souligner et à le rappeler.
Merci Christophe, à l'exception que Jean-Marie Le Pen fera sans doute que 17% au premier tour des élections présidentielles.
Christophe est quand même en train de nous dire que... Christophe est quand même en train de nous dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont bac plus je sais pas combien, blanc, sont devenus le lumpen prolétariat.
Ah ouais, mais il y a un glissement. Il y a un glissement. C'était des gens qui, du fait de leur niveau d'éducation reçu, niveau d'instruction reçu, et leur niveau de culture, leur bagage culturel, n'étaient même pas amenés à voter Jean-Marie Le Pen, et qui aujourd'hui, du fait des dégâts de la politique ultra libéral en France menée ces 20 dernières années, ben, aujourd'hui ne sont plus dans une logique de diabolisation. Et là, c'est dangereux. Là, ça devient très dangereux.
On n'est pas sûr hein, qu'il fera que 20% après tout au deuxième tour, Le Pen.
Au deuxième tour, il sera sans doute
au
pas.
Premier tour,
au premier tour,
pardon. Non, il y a des chances que... Tu sais, les sondages, il n'a jamais été aussi bien parti dans les sondages que depuis...
Oui, mais tu sais, moi, les sondages, j'en ai fâché, donc...
Ils n'avaient pas prévu que... Justement, ils n'avaient pas prévu que Le Pen serait au deuxième tour, et là, ils ne le prévoient pas non plus, donc...
Alors, très bien. Alors, Christophe, autre chose.
Dans la série, effectivement, vive le système UMPS, je voulais rappeler un petit article du Canard Enchaîné qui est absolument extraordinaire et qui, je crois, se passe de commentaires. Sous le titre, je cite, les maires soignent leur pouvoir d'achat.
Ah oui.
En effet, les élus communaux, c'est-à-dire les gens qui sont censés vous servir, hein, et qui sont censés être au service du public. Enfin, ça, je suis un peu incisif parce que quand j'ai lu l'article, j'y ai pas cru. Ça m'a tellement énervé, moi, qui suis en situation de précarité, que je suis scandalisé, quoi. Excusez-moi.
Je
suis pas un anti-politique primaire, mais là, il y a vraiment un peu du foutage de gueule, puisque, excusez du peu, je cite les chiffres, entre 2000 et 2003, dernier chiffre connu, à ton avis, que les élus communaux, en moyenne, hein, donc au niveau du territoire national, combien ils se sont octroyés d'augmentation?
42%.
Voilà. Donc ça se passe de commentaires. 42% avec des turbulences pour les maires de plus de 50 000 habitants, où il y a une augmentation carrément en 3 ans qui atteigne 36% en moyenne, sachant que c'est évidemment les petits maires des villes de moins de 5 000 habitants qui se sont octroyés les moins plus grosses rémunérations. Heureusement que dans la loi, il y a des plafonds.
Je tiens à te préciser que précédemment, dans le temps, il n'y a pas tellement longtemps, le Sénat et l'Assemblée nationale faisaient la même chose. Hein, dans des situations où les gens étaient dans la précarité aussi, où il y avait une misère totale et puis un chômage grandissant, ils augmentaient leur salaire. Donc ça, c'est classique.
Enfin, c'est le déclassement. Je veux dire, ces gens-là, ils risquent beaucoup, ils perdent du pouvoir d'achat.
Voilà. Alors,
mais avec 10 000 euros, on ne vit plus, monsieur, par mois. C'est pas possible.
Oui, c'est vrai. Alors du coup, devinez quoi, le plus beau dans cette histoire, parce qu'il y a quand même la cerise sur le bonbon, c'est les nouveaux présidents, donc pas des gens qui sont élus démocratiquement, hein. je précise. Donc les nouveaux présidents des intercommunalités.
Oui, ils sont nommés.
Ils sont nommés.
Absolument.
Donc c'est copinage, etc. C'est oui, purement politique. Eux, en 3 ans, ils se sont accordés 106% d'augmentation.
C'est bien.
C'est bien. On,
vive voilà. le système.
Vive le système. Voilà.
C'est pourquoi
moi,
parce
depuis que je travaille pas, je me suis accordé 300% d'augmentation.
Non, bah, tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont très compétents. Donc le bon travail mérite salaire. Donc c'est pour ça aussi.
Bah je écoute, moi si conclusion. C'est pour. Être... bon, bah.
Très bien.
Moi je veux bien gagner quelques milliers d'euros.
Très bien,
c'est
on
bien.
Va.
Rien faire.
On va passer sur un coup de gueule d'Arnaud.
Non, c'est pas un coup de gueule.
Non, vas-y, alors. Bah,
c'est
on
a marre.
On a marre, ouais.
On a un ministre qui est ministre de l'Intérieur, qui un jour est ministre de l'Intérieur, qui le lendemain est candidat de l'UMP pour les présidentielles, qui le surlendemain est le patron des. Enfin, ce mec-là, qui est le patron des renseignements généraux, qui va fouiller dans la famille royale, qui n'a rien à cacher, puisque de toute façon, lui, à part sa croix, de Jésus en or massif, il a pas de richesse, hein, donc
d'accord.
Non, mais ce mec-là, si la République a besoin d'hommes d'État, je pense que Sarkozy nous a prouvé qu'il n'était pas un homme d'État parce que il aurait dû démissionner pour se consacré uniquement à sa campagne. Le problème, c'est qu'il part à Toulouse, à Bordeaux, faire ses meetings et tout, mais avec aux frais de la princesse. C'est pas aux frais de l'UMP, c'est aux frais de l'État.
Oui, oui, c'est vrai.
Et le contribuable n'a pas à payer, ou alors il paye pour tout le monde, mais il n'a pas à payer à Monsieur Sarkozy Nicolas. Oui. Ses frais de transport,
frère de Nicolas Sarkozy,
etc., etc. C'est scandaleux. C'est pas un homme d'État, ce mec-là, il a pas de couilles.
Je voilà. voudrais préciser qu'il me semble que Chirac, quand il s'était représenté, qu'il était président de la République, avait, je crois, quitté l'Élysée.
Exactement.
Où c'est un château où on est entretenu et qu'il avait dû de lui-même reprendre une vie normale pour faire sa campagne, ce qui était un peu difficile, paraît-il.
Ouais.
Alors, très bien. Merci Arnaud. Alors, pour finir cette émission, on va parler d'une. Parce que nous, on est quand même des littéraires ici. On va parler de la rubrique livre. Hein. Ludo, qu'est-ce que tu as lu ces derniers temps? Alors, dis-nous un peu.
Écoute, j'ai lu un vieux truc.
Placide Museau, numéro 64. Il est pas mal.
C'est un peu ça, il est bien.
Tifou, c'est pas mal aussi. C'est toujours aussi varié. Globe.
Ouais, c'est ça, en fait, tu as de la littérature du. Entre la littérature du PC ultra. Pour parler sérieusement, donc, j'ai lu un bouquin qui date de 99, qui est très connu, qui est écrit par un universitaire britannique qui s'appelle Kate Dixon. Excusez-moi pour l'accent, et qui retrace, donc qui est dans la collection Libère, Raison d'agir, et qui s'appelle Les évangélistes du marché. Les évangélistes du marché, pourquoi? Parce que il parle de tous les think tanks, je crois que c'est comme ça qu'on dit, enfin de tous les groupes de réflexion néolibéraux qui ont préparé le programme de Margaret Thatcher avant qu'elle accède au pouvoir. La société du Mont-Pèlerin, qui au départ était une société qui a été créée en France juste avant l'entre-deux-guerres, et où était entre autres le von Hayek, le grand penseur ultralibéral avec Friedman. Alors c'est très intéressant puisqu'on ça nous plonge un peu dans les années Thatcher. C'est très intéressant en cette période électorale de voir le programme des néolibéraux qui ont tout simplement estimé, enfin via Margaret Thatcher, que la politique keynésienne de salaire relativement haut et d'économie plus ou moins dirigée, interventionniste
par l'État.
Et la gestion tripartite de
la
responsabilité, hein, c'est-à-dire du gouvernement, le gouvernement, les patrons, les syndicats, ont décidé de sabrer tout ça. Hein. Bon, le résultat en Angleterre, on le connaît un peu, hein, pour ceux qui prennent le modèle, on a commencé à comprendre que c'était peut-être pas le pays du paradis, mais un fait qui est peu connu, c'est que les droits des syndicalistes en Angleterre, d'après Kate Dixon, est retombé à avant 1908, c'est-à-dire qu'on a criminalisé progressivement l'action des syndicats, oui. Et que on peut les traîner en justice pour leur mouvement de grève, ce qui nous augure beaucoup bien du plaisir avec notre nouveau Thatcher, homme français, qui sera peut-être président le 11 avril.
Je voulais faire un petit clin d'œil.
Rappelons que cette collection est une excellente collection, que Pierre Bourdieu en avait été un des parrains. que c'est 6 euros les ouvrages, hein, donc vraiment, si vous avez 6 euros en poche, achetez-le, quoi, hein, c'est vraiment important.
Voilà, et alors, toujours dans la rubrique livre.
Juste une chose, Ludo, une guerre noire, alors c'est.
Une guerre noire, oui. Ça s'évoque.
Voilà.
La guerre noire, c'est un clin d'œil, je pense, dans le titre à Noir Chirac, hein, de Claude Verchev, qui parle de l'Afrique, en fait.
Hein. Ah, c'est ça, oui.
Et c'est le dernier livre, donc, de Gabriel Perrier, c'est David Servenet, qui parle du Rwanda, qui remonte
à. Sur la complicité des armées.
Des militaires français, mais c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire sur les collaborations militaires depuis les années 60 entre l'armée française et le Rwanda et plus généralement l'Afrique, et sur l'idéologie de la guerre contre-révolutionnaire ou contre-subversive qui effectivement serait, d'après ces auteurs, à l'origine du dérapage, enfin du génocide. Donc c'est un livre qui est excellent, il vient de sortir. On invitera probablement les auteurs s'ils sont d'accord pour venir. Ça s'appelle Une guerre noire, c'est aux éditions La Découverte, et c'est de Gabriel Perriès et de David Servenet. Gabriel Perriès est chercheur, est universitaire, donc il est spécialiste des théories militaires, de les doctrines militaires, mm-hmm. Et David Servenet est journaliste à RFI, donc Radio France Internationale.
Alors un dernier ouvrage, c'est La croyance économique de Frédéric Lebrason, c'est ça?
Le Baron, pardon. Donc, qui est maître de conférence de sociologie à l'université de Picardie, et qui donc est sociologue. Frédéric Lebrason, dans La croyance économique, analyse, c'est un bouquin qui date aussi, mais qui est très intéressant puisqu'il analyse en quelque sorte. Voilà, qui est passionnant, qui analyse les nouvelles croyances économiques qui sont diffusées dans les milieux d'affaires et les milieux gouvernementaux, et qui passe au crible la scientificité du discours économique, ou l'apparence de scientificité d'un discours qui en réalité nous vient en large partie des décideurs et qui est une vulgate dont on ne vérifie rarement les prédictions, comme le disait quelqu'un qui suit nous aimons particulièrement, j'ai nommé François Mitterrand, qui disait les experts n'ont jamais la vérité, et dans le domaine économique ils se trompent toujours.
Et moi j'ai une petite info de dernière seconde monsieur Claude Cabanne, patron de l'Humanité, vient d'être grand-père d'un petit Basile qui est né le 29. Longue vie à lui et vive le Parti communiste.
Notre rubrique
pas d'entrisme, s'il te plaît. Alors moi je finirai sur deux annonces. Stop Précarité organise comme tous les ans des cours gratuits de droit du travail. Et donc le 5 février prochain, donc c'est dans quelques jours, les institutions représentatives du personnel, donc sera le thème du cours qui sera donné. Donc c'est à la Bourse du Travail, 67 rue du Turbigot. Allez-y. Hein. Deuxième annonce.
C'est quand ?
C'est le 5 février. Hein, voilà.
Le lundi, je crois.
Oui, c'est un lundi.
Lundi soir. C'est...
Voilà. Donc, deuxième annonce avant de donner la parole à ceux qui nous suivent dans d'autres émissions. Les organisations de fonctionnaires CGTF, FSU, UNSA, Solidaire exigent l'ouverture immédiate des véritables négociations portant sur le maintien du pouvoir d'achat du point en 2006, l'augmentation des salaires pour 2007 sur la base minimum de l'inflation prévue, soit 1,8%, etc., etc. Il y aura donc une grande grève le 8 février. Allez-y donc continuez,
faites la révolution.
Continuez à militer, à être vigilant. Cette émission se termine. Merci messieurs dames de l'avoir suivi.
Merci
de l'avoir faite. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Bonsoir.
Escaparse a algún lugar.
Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error.